Oui, bonjour. Donc, je vais vous parler du projet Performance. Alors, contrairement à comment l'avait écrit Gilles, c'est pas grave. Non, mais c'est important. Ça me permet de dire tout de suite quelque chose. C'est ça, ça s'écrit PAIR parce que l'idée, en particulier, c'est un projet de formation continue des enseignants. Et c'est un projet, la formation s'appuie sur la collaboration entre pairs. D'où le PAIR. Ouais, on espère que c'est performant, mais ça, on verra. Donc, le point d'entrée, c'est un dispositif national, c'est un projet national. Donc, je vais vous présenter d'abord le contexte national et ensuite le rôle qu'on va jouer au niveau de l'INRP. Donc, c'est un dispositif national pour la formation des enseignants à l'intégration des TIS dans les pratiques. L'entrée, c'est l'idée, c'est de passer d'un usage personnel qui existe chez la plupart des enseignants, maintenant en tout cas chez une grande majorité, à un usage avec les élèves en classe, et ça, c'est loin d'être la majorité. L'objectif d'adapter la pédagogie à la diversité des publics, et là je vais vous dire un peu ce qui est affiché au niveau national que vous pourrez retrouver si vous tapez Google Performance et vous trouvez des documents là-dessus, et développer des attitudes de travail en réseau. Donc là c'est les objectifs finaux de cette formation, et on voit qu'elle s'appuie sur la collaboration entre les enseignants, sur la conception des principes de conception et de test de ressources pour la classe et sur une formation qui articule de la présence et de la distance. Et s'il y a une partie de formation à distance, en fait, il y a des outils pour, en particulier une plateforme. Donc normalement, j'ai fait le lien. Non, mais je crois que je vais vous le montrer juste comme ça. Ah, délai d'attente dépassé, excusez-moi. On va voir s'il veut recharger rapidement. Sinon, si, voilà. Donc vous pouvez aller sur le site Performant www.performance.education.fr et rentrer. Alors moi j'ai un accès en tant que conceptrice, on verra à quoi ça renvoie ensuite, mais avoir des informations quand on va sur ce site, des informations un peu générales pour destiner à un enseignant qui voudrait faire une formation ou à un formateur qui voudrait éventuellement utiliser ces outils. Donc comment est conçu l'idée de formation, en particulier comment ça s'actualise dans la plateforme qui est proposée, c'est que l'idée, c'est qu'il y a 7 étapes dans une formation qui est une formation, je rappelle, de collaborative entre enseignants et qui passe par la conception et le test de ressources en classe. La première étape, c'est un enseignant doit rentrer dans la formation et s'approprier ses principes d'élaboration d'une situation pédagogique et de test en classe, puis d'évaluation finalement de la formation elle-même. Deuxièmement, si c'est une formation qui s'appuie sur la collaboration, ben, il faut former des équipes. La deuxième étape, c'est former des équipes d'enseignants et autour en fait d'un contenu choisi par ce petit groupe d'enseignants. Donc sélection des contenus d'enseignement. La troisième étape, c'est de l'auto-formation ou de la co-formation sur des savoirs ou savoir-faire qui auraient été repérés comme nécessaires à l'objectif choisi au sein du petit groupe d'enseignants et au contenu. Donc des formations, par exemple, sur des contenus mathématiques, sur des outils particuliers mathématiques, sur des aspects plus didactiques et pédagogiques. Puis une phase de production collaborative d'une séance pédagogique, d'une situation pédagogique. Alors ça peut être une séance, ça peut être plusieurs séances, une petite séquence. On verra concrètement des fois que ça peut aller plus loin. Ensuite, la phase 5, mise en œuvre de la situation en classe. Donc c'est un point très important qui est chaque enseignant retourne dans sa classe, teste ce qu'il a fabriqué. On voit bien que l'étape 4 et l'étape 5 va peut-être impliquer de revenir à l'étape 3, de réactualiser certains éléments pour pouvoir effectivement être opérationnel en classe. Et au moment du test en classe, il y a l'idée d'éventuellement une co-observation, c'est-à-dire qu'on est, si c'est possible, suivant comment sont formées les équipes d'enseignants, d'autres enseignants vont voir les tests en classe pour pouvoir, en phase 6, avoir un retour réflexif sur cette mise en œuvre. Et puis, un retour sur cette formation. Est-ce qu'on peut évaluer? S'il fallait du travail entre pairs, est-ce que ça a été possible? Si oui, comment? Est-ce que c'était pertinent? donc l'aspect collaboratif. Est-ce que j'ai, c'est une formation d'enseignant, quelles sont les compétences que j'ai acquises, est-ce que je vais pouvoir les réinvestir dans ma classe au-delà de la formation. Donc là, et enfin, le parcours de formation tel qu'il a été conçu, pensé, mis en œuvre, qu'est-ce que je peux en dire en tant que stagiaire ou en tant que formateur qui l'a mis en œuvre. Donc voilà, cette étape, ça c'est, on va dire, dès qu'on fait performance, on va retrouver, là c'est cette étape, tous les collègues impliqués commencent à les connaître. Mais pourquoi ça passe pas à la suite ? Ce parcours, la plateforme, elle s'adresse à la fois aux stagiaires, l'enseignant. L'enseignant, il n'est pas conçu pour s'inscrire tout seul sur la plateforme et faire un truc tout seul. On voit bien qu'il a besoin d'autres collègues pour en particulier faire du travail collaboratif. Et ben en fait, il a besoin aussi d'un formateur qui va accompagner la mise en place de ce dispositif, l'utilisation de la plateforme, la formation des groupes. Et donc c'est dit, là, je vous ai fait un petit copier-coller d'un des éléments qu'on va trouver dans les plaquettes de performance, dans les présentations, qui est, vous êtes accompagné par un formateur. Donc le parcours de formation, il est pensé normalement d'emblée comme s'adressant à un stagiaire enseignant qui se dit, je veux avoir une formation sur, moi je vais vous dire mon dada, hein, la géométrie dynamique, je veux faire ça avec mes élèves en classe, mais finalement il va pas tout seul s'intégrer, donc les parcours ils vont aussi s'adresser à un formateur qui veut mettre une formation en place pour un groupe d'enseignants sur l'intégration de la géométrie dynamique par exemple. Donc ces deux acteurs déjà sont pensés. Mais en fait, dans le parcours et dans le dispositif performance nationale, il y a un troisième type d'acteur qui est le concepteur de parcours. Ces parcours, ils viennent d'où ? Alors, il y a des histoires assez variées. On pourrait aller voir qu'ils viennent éventuellement d'autres pays, dans ceux qui sont proposés actuellement. Mais au niveau national, il y a eu déjà deux appels à production de parcours. Donc, il y a l'idée qu'il y a des concepteurs de parcours de formation qui existent, qui vont dire « oui, moi, je réponds, je vais proposer un parcours de formation ». Donc, il y a eu des appels à production de parcours. Il y a un cahier des charges à respecter. Pour celui qui va produire un parcours, je vous l'ai mis. Voilà. Donc, il y a un document qui est déjà assez long, qui essaye d'aider quelqu'un qui se dira, ben moi, oui, je suis déjà formateur en IUFM, je forme les enseignants à essayer d'utiliser la géométrie dynamique. Est-ce que je pourrais expliciter les formations que je propose à travers, déjà, est-ce que, comment je fais, ça s'articule avec les principes mis en avant par performance, et est-ce que je pourrais expliciter les outils que j'utilise et comment je mène les choses à travers un parcours. Donc, si je réponds à cet appel à parcours, je vais pouvoir m'appuyer sur un cahier des charges pour essayer de faire une proposition. Mais on voit bien, enfin, on voit bien, nous on voit bien déjà, et on voudrait bien que vous voyez derrière, à la fin de mon exposé, et surtout après l'atelier de cet après-midi, qu'est-ce que ça peut impliquer de vouloir proposer un parcours de formation pour des groupes d'enseignants en utilisant une plateforme, en faisant de la distance et de la présence, en amenant les personnes à produire une séance, à la tester en classe, à revenir dessus. Donc pour les concepteurs de parcours, il y a ce cahier des charges, il y a une structure au niveau du projet performance qui s'appelle le COVALRES, le comité de valorisation des ressources, qui caractérise les besoins en formation et qui dit moi au niveau national sur ma plateforme je veux offrir des parcours de formation pour ci, pour ça, pour la géométrie, pour la géométrie dynamique, pour la différenciation des publics, pour aider à adapter les enseignements à ma diversité d'élèves, pour plein d'objectifs diverses, qui régulent le processus de production de parcours. Est-ce que c'est si facile de proposer un parcours à partir d'une expérience qu'on a ? Peut-être pas. Comment on peut aider les concepteurs à produire des choses qui vont être effectivement opérationnelles dans la plateforme, qui garantit la qualité, la richesse, la diversité, l'adaptabilité de ces parcours et des ressources qui vont avec les parcours. Donc il y a un processus en fait d'expertise des parcours qui s'appuie sur donc d'expertise des parcours qui quand on propose un parcours en appel à production, l'idée c'est pas de valider, de dire oui c'est bien, non c'est pas bien. En fait, il y a quelques parcours qui sont retoqués mais pour des critères vraiment très extrêmes. Et la plupart du temps, c'est plutôt l'idée, quand un parcours est proposé, comment on peut aider à améliorer sa qualité pour qu'effectivement ce soit utilisable dans le au sein de performance. Et cette qualité, elle est évaluée à plusieurs, il y a 6 critères. Le premier, ça va être la qualité scientifique. Bon, est-ce que mathématiquement, il n'y a pas trop d'erreurs, mais on pourra. Ces critères eux-mêmes peuvent être eux-mêmes évolués pour pouvoir mieux s'adapter à ce que c'est un parcours de formation. Donc, la qualité scientifique, ça peut être aussi est-ce que les outils didactiques sont effectivement mis en œuvre de façon pertinente dans le parcours. En fait, ça rejoint ce qu'ils appellent la qualité pédagogique, la pertinence des contenus et méthodes, la prise en compte des résultats de la recherche en didactique, l'adéquation des séquences de classe avec les programmes, l'adéquation de l'activité avec la démarche B2I, par exemple. Puis, je vais être moins pertinente, moi, sur la qualité ingénierique, la pertinence des méthodes et techniques proposées dans les activités par rapport à une approche par compétences dans le cadre d'une formation action à finalité professionnelle. C'est peut-être moins clair qu'est-ce qu'on peut attendre, comment un parcours répond ou pas à ce critère de qualité. La qualité médiatique, on va peut-être un peu mieux voir que est-ce qu'on peut s'approprier facilement les différents types d'outils et de la façon dont les informations sont médiatisées à travers des textes, des vidéos, des activités, différents supports. La qualité ergonomique et documentaire, facilité d'accès au contenu, navigation intuitive, interactive, activité, utilisabilité, indexation, c'est peut-être dans un deuxième temps quand on conçoit un parcours de formation. Après, il faut le mettre sur la plateforme et pour le mettre sur la plateforme, on doit faire des choix et c'est à ce moment-là, c'est peut-être pas a priori qu'on doit améliorer ces aspects-là. Puis la validité juridique, tout simplement, par exemple, sur un parcours pour lequel on a été amené à faire une petite expertise, eh ben, l'enseignant utilisait, peut-être dans sa classe, il utilisait Mickey, il utilisait Titeuf avec des images. Est-ce qu'on peut, au niveau national, sur une plateforme, récupérer des images et des représentations comme ça qui sont soumis à des licences d'exploitation, à mon avis, pour lesquelles on n'a pas les droits si facilement et qui ont un coût, tout bêtement. Voilà, ces choses-là, est-ce qu'on peut pas remplacer ça par d'autres éléments? Donc, ces outils, ces critères qualité sur les parcours sont pas vus au niveau du dispositif national comme oui, non, on répond, on répond pas, mais plutôt comme comment on peut améliorer, comment on peut faire évoluer les propositions pour que ça remplisse ces critères et comment ces critères eux-mêmes éventuellement peuvent être affinés parce que c'est pas si simple. Qu'est-ce que ça veut dire prendre en compte les résultats de la didactique à froid comme ça, c'est peut-être pas si évident et comment on peut faire pour l'améliorer. Donc je reviens juste en arrière. Pourquoi il veut pas? L'objectif pour performance, c'est d'avoir 100 parcours pour septembre 2008. Voilà. Donc comment on a répondu au niveau de l'INRP? On a répondu en 4 points. Et les 3 premiers sont le premier qui est un objet assez important de nos réponses, c'est produire 3 parcours dont 2 concernent la formation des enseignants en mathématiques. Cette production, c'est on les conçoit, on expérimente et on fait évoluer ces parcours, en particulier une conception qui s'appuie sur la collaboration puisqu'on produit 3 parcours, ça veut dire que les concepteurs, c'est pas un concepteur tout seul, c'est un groupe de concepteurs qui interagit entre eux pour produire chacun un parcours, mais pas de façon autonome et dissociée en s'appuyant sur l'interaction. C'est aussi une conception dans l'usage, c'est-à-dire que la conception des parcours s'appuie dès tout de suite la première année sur l'expérimentation de ces parcours dans des formations proposées aux enseignants. Alors, suivant les différents parcours, ça s'est fait d'emblée, la conception s'est fait au fil de la formation. Pour d'autres, il y a la conception, le test, et puis on revient sur la conception des étapes suivantes parce que avec les stagiaires, il y a un petit décalage. Ou alors, on conçoit et on teste en passant directement avec une autre équipe de formateurs. Donc, il y a différentes façons d'avoir produit ces parcours. On reviendra cet après-midi là-dessus. La deuxième élément de la réponse INRP, c'est ces parcours, on les conçoit, on vous les teste et on vous les livre déjà avec une première phase de test finie. Mais en fait, on va accompagner l'année prochaine si ces parcours sont choisis par des formateurs qui ne sont pas les concepteurs, par exemple. Alors, on va accompagner les formateurs par des formations à l'INRP, par un accompagnement en ligne. Ils peuvent se retourner vers les auteurs pour savoir, j'appelle auteur ou concepteur, pour savoir que quand ils rencontrent un problème, qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qui était pensé, comment eux, ils vont l'adapter. Voilà, donc ça, c'est un deuxième élément qui n'est pas montré dans le projet Performance Nationale, mais qui est mis en place à l'INRP. Un accompagnement, on voit bien dans le temps, de la conception de ces parcours à leur appropriation par d'autres. Un élément sur lequel je ne vais pas revenir ensuite, c'est l'expertise, l'INRP aussi, un groupe d'experts. On nous a appelés sur d'autres parcours en disant « qu'est-ce que vous en pensez ?» On peut être sollicité comme ça, on est plusieurs à l'avoir été en maths, mais dans d'autres disciplines aussi. Le gros bout dont je vais parler là maintenant, mais rapidement, parce qu'en fait, il faut déjà finir, mais c'est très bien, je vais zapper un petit peu. De toute façon, il y a toute l'après-midi là-dessus. C'est un projet de recherche. Ce projet de recherche, il est pensé pour trois objectifs que j'ai retenus, mais mes collègues pourraient dire que, en fait, il démarre, pourraient dire que c'est ma vision, éventuellement pas la leur. Analyser la pertinence des hypothèses sous-jacentes au projet national performance, qui est: on peut transférer une formation d'un concepteur à des formateurs qui n'ont pas conçu la formation à travers un outil méthodologique qui est un parcours de formation. Est-ce que ça marche? À quelles conditions ça peut marcher? Est-ce qu'il faut changer des choses par rapport à comment ça a été prévu initialement? Le travail collaboratif est un moyen de formation efficace. Je pense que tout le monde est en train de se dire que oui. Mais pourquoi et qu'est-ce qu'on peut en dire, nous, de façon un peu plus creusée, juste au-delà de dire « j'ai fait des formations comme ça, tout le monde est content, ça marche ». Ensuite, la conception et le test de ressources pour la classe est aussi un moyen de former les enseignants. C'est l'hypothèse qui est faite dans cette formation même-là. C'est une hypothèse qui est faite et qui commence à se disséminer dans d'autres structures. Qu'est-ce qu'on peut en dire à travers notre expérience et ce projet de recherche? Essayer de valider ces hypothèses avec des outils un peu plus, on va dire, construits que juste le mettre en œuvre et dire ça marche à la fin. Ensuite, il s'agit de soutenir le processus d'amélioration de la qualité des parcours. C'est pas d'emblée qu'un parcours est bien. On voit bien que nous, je pense que autour de cette table, on a tous été sollicités. On a une expérience en tant que formation des enseignants. Qu'est-ce qui fait que cette formation, on n'est jamais très content à la fin. On est content sur certains points, on est moins content sur d'autres. Comment on peut améliorer ça? Donc, extérioriser ce que c'est une formation à l'intérieur d'un parcours. Comment on peut améliorer après? Comment est-ce que éventuellement ça peut, même cette volonté d'expliciter peut nous aider à améliorer les formations qu'on propose? Moi, je suis dans la formation sur la géométrie dynamique. On n'est pas si fort que ça puisque si peu d'enseignants l'utilisent concrètement. Donc voilà, la question, elle est entière, elle dépasse performance et il faut avancer là-dessus. Et puis ici, l'appropriation des parcours par les formateurs non concepteurs. Est-ce que c'est pas tout d'avoir fait une bonne formation, d'améliorer cette formation pour nous en tant que formateurs, être plus pertinent la fois d'après, mais est-ce que je peux partager et comment je peux partager avec des gens qui ne sont pas là dès le départ à la source de la conception? Donc, ces trois points, moi, qui me paraissent importants, je voudrais que ce projet de recherche dans lequel je suis impliquée en première ligne me permette d'avancer sur ces trois points. On a une collection énorme que je ne vais pas vous donner maintenant parce qu'il faut que j'aille vite, de questions qui se déclinent en ce parcours de formation, cet objet, qu'est-ce que je peux en dire? Qu'est-ce que c'est un parcours de formation? Qu'est-ce qu'il est actuellement? Qu'est-ce que ça doit devenir? Comment la plateforme, elle contraint cet objet-là? Est-ce que je veux la faire évoluer, par exemple, en disant, la plateforme actuelle, il faut faire bouger certains éléments? L'appropriation, l'évolution des parcours de formation. Quels sont les éléments descriptifs d'un parcours de formation, les outils, la structure nécessaires à son appropriation et à son transfert à d'autres? Vous allez être, en gros, au front sur cette question cet après-midi. Autour du travail collaboratif, on a dit que c'était qu'on s'appuyait sur le travail collaboratif. La plateforme, est-ce qu'elle soutient ce travail? Est-ce qu'au contraire, elle est inutile et ce travail se fait en collaboration autrement? Par exemple, comment constituer des équipes de stagiaires? Est-ce qu'il vaut mieux des équipes intra-établissement, trois stagiaires ensemble dans un établissement parce qu'ils vont pouvoir collaborer, on le voit bien. Mais, par exemple, ils ne vont pas utiliser les outils de réseau et les plateformes mis à leur disposition. Alors, est-ce qu'il faut plutôt demander à des équipes inter-établissement, un enseignant dans un établissement, un dans un autre, Parce que, par exemple, si des profs s'inscrivent individuellement à la formation, il y a peu de chances qu'ils soient, à part si on les aide tous dans le même établissement. Et on va favoriser l'utilisation des outils d'interaction en réseau, des plateformes qui sont conçues, a priori, pour favoriser la collaboration. Bah, voilà, quel choix on fait, comment on privilégie quelque chose, et en fait, on se rend compte que ça marche et, ou pas. Autour de l'évaluation des parcours et de la démarche qualité, on est dans l'idée que voilà, on qualifie pas un parcours par oui ou non dès le début. On est plutôt dans une démarche d'amélioration. Comment on peut soutenir l'amélioration de la qualité à partir de divers éléments. Et où est-ce qu'on en est actuellement ? On en est, on va dire, à 6 mois. On a débuté en septembre quand tu es arrivé, hein, c'était le voilà, on est déjà en février, ça passe très vite. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, il y a des parcours qui existent, qui vont vous être soumis. Donc on regarde comment on a conçu, où en est des usages, à travers par exemple l'idée d'assistant méthodologique. Un parcours de formation, ça peut être vu comme un assistant méthodologique entre un groupe de concepteurs de parcours, c'est-à-dire d'avoir dû fabriquer un parcours, de l'avoir explicité en 7 étapes avec des ressources, ça nous a aidé à travailler entre concepteurs pour savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans un parcours, comment t'as fait toi, ah tu as fait comme ça et moi j'ai fait différent. Et on va vers un modèle de parcours, par exemple, c'est aussi un assistant méthodologique au formateur dans sa formation. J'ai explicité ça, bah maintenant ça m'aide à articuler les différentes phases de ma formation. Donc on voit bien que c'est un assistant méthodologique aussi pour le stagiaire en formation. Et est-ce que maintenant ces objets-là qui ont été conçus, qui ont été testés en fait par des formateurs qui étaient déjà des concepteurs, est-ce que cet après-midi on va pouvoir les transmettre à des formateurs qui n'ont pas été concepteurs, d'où voilà, vous serez tous dans les ateliers à découvrir ces premiers parcours conçus par des groupes à l'intérieur de l'INRP et où vous n'avez pas tous été concepteurs, et donc vous allez pouvoir voir comment on peut se les approprier ou pas. J'ai terminé.